On va lire ensemble l'Épître aux Éphésiens, quelques versets bien sûr. Éphésiens chapitre 1er, sur ce thème « Ouvrir les yeux de notre cœur ». Éphésiens 1, verset 15. Vous connaissez certainement l'Épître aux Éphésiens, comment Paul nous raconte les bénédictions magnifiques que Dieu nous a données. Ce n'est pas avoir de belles vacances, ce n'est pas avoir une belle voiture. Les bénédictions, c'est que avant que le monde existe, Dieu nous avait appelés à être des enfants adoptés. Dieu nous avait choisis. Dieu avait prévu un moyen de salut en Jésus-Christ. On n'existait pas encore et tout était prêt. Et Dieu avait prévu de nous donner un cœur intelligent. Pas fou, intelligent pour le comprendre. Ça, c'est des bénédictions. Mais je dirais qu'il faut aller pas plus loin, mais vers d'autres bénédictions. Les Éphésiens avaient la charité, ils avaient la foi. Je ne dis pas qu'il y a plus que la charité, il n'y a pas plus que la foi, mais il y a autre chose encore qu'il faut développer. Je lis. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, pour tous les chrétiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, le Christ, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, l'Église qui est la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Amen. Bénis ta parole, rends-nous humbles, rends-nous attentifs, rends-nous remplis du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans ces quelques lignes, fait une prière pour demander à Dieu trois choses. Et ces trois choses, j'aimerais vous dire que je prie pour qu'elles se réalisent aussi en moi et en vous. Premièrement, un cœur ouvert. Il prie pour que Dieu ouvre nos yeux. On est tellement occupé à 100 000 choses. Et le diable est très malin pour nous faire oublier la chose essentielle. Et parfois même, dans sa malice extrême, le diable est capable de nous faire lutter contre la chose essentielle pour garder les choses dérisoires. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ils l'ont déjà reçu, les Éphésiens. Cela veut dire tout simplement que Dieu vous donne un cœur capable de comprendre et un cœur capable de recevoir la révélation que Dieu veut vous donner. Que Dieu vous donne un cœur capable d'être rempli avec les nouvelles choses de Dieu, les paroles de Dieu. Je me ferai connaître à lui. Mais nous, on n'a pas le temps, Seigneur. Mais nous, on regarde ailleurs. Et Dieu nous dit, le Christ a dit, je me ferai connaître à lui. Révéler, ça veut dire ouvrir. Dieu ouvre ses paroles pour qu'on les comprenne. Dieu ouvre notre intelligence. Dieu ouvre notre cœur. Après la résurrection, le Christ a prié pour que Dieu ouvre leur intelligence aux apôtres, pour qu'ils comprennent les Écritures. Si on ne comprend pas les Écritures, si on ne lit pas les Écritures, sommes-nous chrétiens ? Si je ne voyais jamais ma femme, serais-je marié ? Si je ne vois jamais l'Écriture, suis-je vraiment chrétien ? C'est notre salut. C'est quoi le salut ? C'est connaître Dieu. Connaître le chemin qu'il a tracé, c'est connaître la vérité. Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est la plus grande bénédiction à demander. Parle, ton serviteur, écoute. Qui es-tu, Seigneur ? Si nous n'avons pas là un esprit ouvert à cette parole, on va écouter toutes sortes de choses. Nos rêves, des paroles de faux prophètes. On ira sur Internet dans tous les pays du monde. On cherchera alors que nous avons le pain, l'eau, la vie en Jésus. Paul le demande, je prie pour que Dieu ouvre votre esprit, vos yeux, parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous êtes baptisé que vous avez les yeux ouverts. Ce n'est pas automatique. Paul le dit dans cet épître, notre intelligence est obscurcie, notre cœur est parfois endurci par des péchés qu'on n'a pas réglés et qui restent dans la famille, dans l'Église. Alors il faut une intervention du Saint-Esprit. Il faut que les écailles tombent. Il faut que le voile tombe. Il faut que Dieu fasse un miracle pour qu'on puisse ouvrir nos yeux. Paul, il dit, je prie pour que Dieu ouvre, vous donne un esprit pour comprendre. Mais il dit autrement, il dit, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que la parole du Christ brille dans votre cœur, que vous la voyez, qu'elle vous ouvre les yeux sur vos frères, vos sœurs, votre Église, ma présence au milieu de vous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent voir plus. Je crois qu'il y a une convoitise des yeux chez certains chrétiens. Ils veulent voir. Satan disait à Jésus, regarde tous ces royaumes, regarde leurs richesses, regarde. Et à la fin du monde, le diable fera des prodiges à la vue de tous et il séduira beaucoup de chrétiens. On veut voir. Le diable nous dit, j'arrive. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ce sont les yeux de notre cœur qui doivent s'ouvrir. Jésus disait, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Et vous connaîtrez que je suis en vous. Première prière de Paul, ouvre nos yeux. Ouvre notre esprit. Deuxième prière de Paul, au verset 18, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Dieu ouvre nos cœurs pour nous montrer notre héritage, l'héritage que nous attendons, parce que notre salut, ce n'est pas de danser en chantant et vivre jusqu'à 300 ans et ne jamais vieillir. Notre salut, c'est être avec le Seigneur. Une église est solide si elle regarde la cité de Dieu, si elle regarde les choses d'en haut. Abraham, quand il est arrivé en terre promise, il a posé ses valises et il a commencé à regarder la cité dont Dieu est le constructeur. Il faut parler de l'espérance. Dans 3 ans, dans 10 ans, beaucoup auront disparu du milieu de nous. Parce qu'il y a l'âge et nous pouvons partir demain sur la route d'un accident cardiaque. Et nous serons là introduits dans le paradis. Il faut qu'on en parle. Nous sommes convertis pour attendre Jésus qui revient du ciel. Amen. C'est notre espérance. L'apôtre Paul, épître aux Hébreux, il compare l'espérance à l'ancre de l'âme, l'ancre du bateau, qui stabilise le bateau. Vous savez, cette pièce de métal énorme, un peu en forme de croix, qu'on met au fond de l'eau, là, dans le sable, et qui stabilise. Je crois que cette espérance de savoir qu'un jour mes yeux verront Jésus, de savoir que je marcherai un jour avec lui, cette espérance nous tient dans les mauvais moments. Savoir que Dieu dans le ciel conduit toutes nos journées, tous nos jours difficiles, et qu'il nous prépare tout d'avance, ça nous stabilise. Notre joie, ce n'est pas les réussites humaines, professionnelles, familiales. Pour ces choses-là, il faut rendre grâce en toutes choses, c'est vrai. Mais notre joie, c'est de savoir que nous serons ensemble avec le Seigneur. L'apôtre dit, ne vous enivrez pas de vin. Le vin, ce n'est pas seulement le vin qu'on peut boire. Ne vous enivrez pas avec les choses de la terre. Ne vous enivrez pas. Restez dans l'essentiel. Notre joie, c'est de dépendre de cette espérance, nous serons avec le Seigneur. Notre salut, c'est quoi notre salut? Est-ce que c'est dire ça, tout va très bien, j'ai plus de problème? Notre salut, c'est d'avoir les yeux ouverts sur l'héritage dans un monde qui bouge, un monde de guerre, qui prépare la troisième guerre mondiale, bien sûr, vous le savez. Et notre héritage, c'est la résurrection, où nous serons avec le Seigneur, où nous serons semblables au Seigneur. Paul, la veille de mourir, disait « Le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » C'est ça l'espérance. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Que Dieu nous donne un cœur ouvert sur les choses promises, sur la gloire qui nous attend tous, afin qu'on ne se batte pas pour des poussières, pour des brindilles, pour des choses qui n'existent pas. Que Dieu nous bénisse. Je termine rapidement avec le troisième point. Paul prie pour que nous ayons les yeux ouverts, pour que nous connaissions l'espérance, ce qui nous attend là-haut. Et il prie pour que nous connaissions la grande puissance de Dieu. On lit le verset 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons. Donc je prie pour que vous sachiez que vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il emploie beaucoup de mots, il emploie 8 mots pour dire force. Frères et sœurs, la puissance qui a ressuscité Jésus, la puissance qui a fait monter Jésus au plus haut des cieux, au-dessus de tout. Cette puissance que l'apôtre Paul a du mal à représenter, il emploie des mots et des mots, il ne sait pas quel mot employer. Cette puissance, elle est en nous. Et vous ne dites pas amen. Cette puissance, elle n'est pas dans la création, elle n'est pas dans les galaxies, elle n'est pas dans les tremblements de terre, dans les étoiles. Elle est dans la résurrection de Jésus. Et je vais aller un petit peu plus loin. Elle n'est pas seulement à la résurrection de la fin du monde. Elle est déjà en nous. Amen. C'est pourquoi Paul dit, Dieu peut faire au-delà de ce que vous demandez, que vous pensez, par la puissance qui agit en vous. Il y a quelque chose en nous. Cette puissance, cette force qui ne se manifeste pas par des grands prodiges. C'est comme l'arbre, le cèdre qui fait 30 cm de haut. Il n'est pas grand le cèdre, 30 cm de haut. Il n'est pas époustouflant, mais je peux vous dire que dans ce cèdre-là que Dieu a créé, il y a de la force pour des milliers d'années, et il ira très haut, et ses branches couvriront un immense espace, et ce sera l'un des plus beaux arbres de la création de Dieu, le cèdre du Liban. Et en nous, dans notre vieillesse, dans nos maladies, il faut savoir que nous avons une puissance en nous, puissance de la résurrection. Elle nous tient dans la foi. Elle nous protège de l'ennemi. Nous sommes au-dessus des dominations de Satan. Que Dieu ouvre nos yeux sur cette puissance qui est en nous, qui s'appelle présence du Saint-Esprit. Présence de Jésus. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous ne soyons pas troublés en rien. que nous ne soyons jamais arrêtés par les épreuves de la vie, les difficultés familiales, les disputes et les incompréhensions. C'est que Dieu ouvre nos yeux sur cette puissance qui agit déjà en nous, qui a élevé le Christ très haut et qui nous élève. Alors, quand on sait ça, on est capable d'espérer. On est capable de faire confiance à Dieu. On sait que Dieu peut. On est capable de prier. On est capable de travailler. On est capable de supporter les humiliations. On est capable d'affronter le mépris. On est capable de continuer et de dire « Dieu est avec moi. Qui sera contre moi ?» Parce qu'en moi, il y a la puissance qui est plus grande que celle qui est contre moi. Amen. Je conclus en vous disant que ce Christ qui domine tout, il est notre chef. On a affaire à lui directement. Ça, c'est une grande redécouverte des protestants du XVIe siècle. On a un accès direct à Dieu. C'est notre chef, Jésus. Il y a un mot que je voudrais vous expliquer ce matin, pour conclure. Paul dit « L'Église est la plénitude du Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Église, elle est remplie du Christ. Ça veut dire que l'Église, que le Christ remplit tout. Tout notre culte. Amen. Il remplit nos vies. Je n'écoute pas ceux qui disent « Le Christ n'est pas là ». C'est un mensonge satanique. Le Christ remplit l'Église. Il remplit nos œuvres. Il remplit nos maisons. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur la présence de Jésus dans ses enfants. Amen. Ainsi, nous les respecterons. Nous essaierons de les comprendre. Donne-nous un cœur intelligent pour recevoir cette révélation. C'est une nouveauté, ça. Le Christ de l'univers remplit tout. L'Église n'est pas vide. Elle est céleste, imparfaite. Dans l'apostasie, où l'on voit des abandons honteux, où l'on voit des tentations, des choses abominables, l'Église, elle vit des choses difficiles partout. Mais elle a la richesse la plus glorieuse dans un vase d'argile. Jésus, le Seigneur Dieu. Amen. Ça vaut une vie. Ça vaut tout. Si j'avais 1000 vies, je voudrais les vivre que pour lui. Bien sûr, comme vous. Nous allons prier le Seigneur. On va prier peut-être en rappelant quand même la prière de Paul. Seigneur, donne-nous un cœur qui comprenne, un cœur rempli de tes révélations. Donne-nous des yeux ouverts. Et donne-nous aussi de nous attacher à l'héritage. Cet héritage, c'est que nous ressusciterons pour être toujours avec toi, toujours avec toi. Et donne-nous, Seigneur, aussi de penser, de comprendre, parce que nous pouvons tout comprendre, le plus petit d'entre nous peut tout comprendre. Donne-nous de comprendre que la puissance d'amour, la puissance de résurrection du Christ est en nous. Amen. alors nous pourrons avancer. Nous pourrons sécher nos larmes. Nous pourrons bâtir sans arracher. Nous pourrons aimer sans colère ni mauvaise pensée. Nous pourrons bâtir le royaume de Dieu. Ouvre nos yeux, Seigneur. Amen.